Radio Stabile.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
J'ai dû continuer à travailler 4 heures par jour, sinon je n'y arrive pas. Ici, l'inflation nous dévore.
Être argentin, aujourd'hui dans une nouvelle crise économique et 33% du pays qui vit sous le seuil de pauvreté, une situation qui touche toutes les couches de la société argentine, vous le découvrirez dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Jamaïque notamment, au Liban et ailleurs. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips avec un Trump au Royaume-Uni qui joue sa partition. 18h50, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four et le SPD en Allemagne sans tête, c'est toute la coalition qui tremble avec Angela Merkel à sa tête. Avant cela, c'est en Chine que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Thès. Un jour dans le monde.
On a beaucoup traversé l'année 89 en Chine, aujourd'hui sur Inter, et surtout les 23 jours de la place Tiananmen, parce qu'on oublie qu'au fond, ça n'a duré que 23 jours, 23 vrais jours, 23 longs jours, mais néanmoins, on va donc y passer un peu de temps, parce que ce sont ces 23 jours qui ont changé la Chine et peut-être une partie du monde tel qu'on le lit aujourd'hui. D'ailleurs, bonsoir François Bougon.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde, vous avez été en Chine en poste longtemps, vous avez écrit La Chine sous contrôle, Tiananmen 89-2019, c'est publié chez Seuil. Ce qu'on apprend surtout, grâce à vous d'abord, c'est que Tiananmen préfigure la Chine d'aujourd'hui, mais on apprend aussi qu'il y en a eu d'autres des Tiananmen, en fait, avant celui-là, et que sans les autres, au moins deux en tout cas, il n'y aurait pas eu celui qu'on connaît nous.
Oui, il y en a. Alors moi, il y en a eu plusieurs, mais il y en a deux principaux que j'ai choisis. 1919. Alors pourquoi 1919 ? Parce que c'est une manifestation d'étudiants juste au moment du traité de Versailles, et les étudiants sortent au nom de la science et de la démocratie, et ils protestent contre la décision des Alliés de donner la colonie du Shandong, la péninsule du Shandong, qui appartenait aux Allemands, qui était une colonie allemande, aux Japonais. Et donc ça suscite un mouvement nationaliste très fort, ça va susciter aussi un mouvement qu'on a appelé le mouvement de la nouvelle culture, et de ce mouvement est né le Parti communiste chinois 2 ans après. Et donc c'est pour ça que pour le Parti communiste, Tiananmen représente comme un creuset. Mmh. Et donc, lorsque, en 89, les étudiants de cette époque-là occupent la place, il y a un conflit de mémoire, mais aussi quelque chose qui rappelle ces 70 ans auparavant le mouvement de ces étudiants. Et puis, il y a aussi 1976, la révolution culturelle est en train de se terminer, Mao est en train de mourir, et la personne qui meurt, c'est Zhou Enlai, le premier ministre, qui a été considéré comme celui qui a permis de lutter contre les gauchistes. Et sa mort déclenche tout un mouvement de protestation, d'hommage, et les gens se rendent sur la place Tiananmen.
Alors, ils s'y rendent. On a peut-être oublié cet épisode-là, mais les dazibao qui fleurissent, la poésie partout. Et vous citez, c'est même très émouvant, les parents d'un monsieur qui s'appelle Chen Tong, qui sera là en 89, donc quelques années plus tard. À ce moment-là, sur cette place en 76, qu'est-ce qu'ils disent, les Chinois ?
Bah, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Ils en ont assez du contrôle idéologique. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'avoir de la liberté. Mmh. Ils ont souffert depuis 1966. Ils ont souffert des humiliations et des tortures de la révolution culturelle. Ils en ont assez, en fait. Et rendre hommage à Zhou Enlai, c'est critiquer ce qu'on appellera plus tard la bande des quatre. Mmh. C'est Madame Mao et les trois acolytes qui sont autour d'elle. Mais c'est surtout les ultra-gauchistes.
Mais on rentre dans une sorte de printemps, en fait, parce qu'il y aura une sorte de printemps de Pékin en 78, on est seulement 2 ans après. Donc on rentre dans ce moment passionnant où, au fond, est-ce qu'il faut plus d'ouverture démocratique? Est-ce qu'il faut plus d'ouverture économique? Est-ce que l'un va sans l'autre? Ce débat-là, qui existera pendant des années après, il commence à ce moment-là.
Oui, c'est une période fascinante qui s'ouvre pour la Chine, parce que, en tout cas jusqu'en 89, partir de 78, quand Deng Xiaoping prend véritablement le pouvoir, il écarte le successeur qui avait été désigné par Mao, un pâle bureaucrate qui s'appelait Roy Kuofang. Et de 78 à 89, la Chine va vivre une période très excitante, à la fois beaucoup intellectuellement, en fait. Mm-hmm. Il y a un débat d'idées. Beaucoup de gens débattent. La Chine s'ouvre. Elle est avide d'ouverture. Ça fait depuis 66 que les frontières sont fermées. Donc la jeunesse chinoise, elle est avide de contact, est avide de lecture, et donc ça suscite un bouillonnement très très fort, et ça suscite aussi des réactions au sein du parti.
Le mouvement de 76, le printemps de 78, néanmoins, sont balayés, alors moins violemment qu'en 89, mais balayés. Vous racontez par exemple que les parents du jeune homme dont on parlait à l'instant mettent les poésies, les Désibao sous l'eau pour qu'il n'en reste rien. Donc à ce moment-là, là aussi, on hésite entre une réponse très autoritaire et écouter la foule.
On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a l'expérience, les expériences précédentes, notamment de 57, quand Mao avait dit aux intellectuels « vous pouvez critiquer le parti sans problème ». Et puis un an après, ils se sont retrouvés dans des camps, ils se sont retrouvés à la campagne. Donc on ne sait toujours pas de quoi demain sera fait. Deng Xiaoping, à un moment donné, était revenu sur le devant de la scène et puis il a été purgé de nouveau. Donc on est encore dans cette période d'entre-deux. Et pourquoi j'ai choisi Shentong? Parce que il habite près de la place Tiananmen, il y va souvent sur la place, et donc il a à la fois vécu comme enfant 76, il a vécu aussi le printemps de Pékin de 79. On se souvient de ce printemps-là alors c'était pas à Tiananmen, mais c'était à l'ouest, à Xidan. Et puis surtout, ça a été un des leaders de 89.
Et il était au mausolée de c'est ce que vous racontez. Il était à la mise en place, on va dire, du mausolée de Mao. Là, c'est un tout petit garçon. Et il est très fier d'être là. Donc toute cette ambivalence chinoise, elle est dans ce monsieur également. Est-ce qu'il y a une rupture dans ces années-là entre le pouvoir et la jeunesse, ou finalement ces allers-retours, ça montre surtout les divisions du Parti communiste, qui pour l'instant ne sait pas quelle est sa direction après Mao?
Je pense que ça montre surtout les divisions du parti. C'est-à-dire que à partir de 78, vous avez d'un côté les réformateurs qui poussent pour plus d'ouverture, qui poussent pour qu'il y ait un développement économique. Et puis de l'autre côté, vous avez les conservateurs qui, eux, sont un peu effrayés par ce développement de l'économie et qui voudraient... Alors ça, c'était le grand slogan de celui qui représente le chef de cette aile conservatrice, Chun Yun, qui disait il faut mettre l'économie, enfin la réforme, dans l'oiseau dans la cage. On veut bien ouvrir un petit peu, mais faut revenir à cette économie dirigée qui était celle des années 50. Et puis entre deux, vous avez Deng Xiaoping. Et en fait, de 78 à 89, vous aurez toujours à la fois des moments d'ouverture très très forte, et puis tout d'un coup une répression. Et ça va se passer comme ça tout le temps.
Et alors en 89, c'est là que c'est intéressant d'ailleurs, parce que vous disiez qu'en 76, c'était en hommage à Chou Enlai que les étudiants se retrouvent sur la place Tiananmen. Là, c'est en hommage à Eui Yaobang, que de la même manière, quasiment au même moment, d'ailleurs, parce qu'on est 3-4 avril et là 3-4 juin, les étudiants se retrouvent sur la place. À quel moment on comprend au pouvoir, et notamment Deng Xiaoping, que c'est différent? Cette fois-ci, c'est pas une émeute, c'est une révolution aussi. Hein. À quel moment on sent ça, en fait?
Je crois que c'est si la date exacte, ça doit être le 25 avril. Il réunit, Deng Xiaoping réunit autour de lui des anciens du parti et Li Peng, qui est le premier ministre. Et de cette réunion va naître ce qu'on appelle l'éditorial du 26 avril du quotidien du peuple. Et alors, pourquoi c'est un moment important? Parce qu'en fait, c'est le moment où le parti, en tout cas officiellement, dit que le mouvement des étudiants est un mouvement contre-révolutionnaire. Et à partir de là, les étudiants vont tout faire pour obtenir qu'on revienne sur cette décision. Et Deng, lui, va rester là-dessus. Et ça se terminera à la fin par la décision de Deng Xiaoping de faire intervenir l'armée.
Mais au fond, il le sait à ce moment-là, non? Qu'au bout, il fera intervenir l'armée, Deng Xiaoping.
Oui, sûrement,
même si on est
qu'au
mois d'avril, à la
après,
fin du mois d'avril.
Alors, c'est quand même ce qui était compliqué, c'est que le secrétaire général du Parti communiste, Zhao Ziyang, lui a essayé jusqu'au bout d'essayer de maintenir un échange avec les étudiants. Certains membres du parti aussi, il y a eu des réunions régulières, etc. Et en fait, voilà, Deng Xiaoping, à un moment donné, décide de faire intervenir l'armée parce que il y a aussi, il faut se souvenir que c'était le moment où le régime devait mettre en scène la grande réconciliation sino-soviétique. Gorbatchev
était là,
et en fait Deng Xiaoping, je pense, le prend aussi comme un affront. C'est-à-dire, les étudiants lui ont gâché la fête, lui ont gâché cette fête des retrouvailles.
Et vous expliquez d'ailleurs qu'il sauve au fond sa peau à lui, Deng Xiaoping, quand il décide d'envoyer l'armée dans les circonstances que nous savons. Alors, que disent les anciens de Tiananmen aujourd'hui sur leur échec, au fond, et sur la Chine d'aujourd'hui aussi? Je voudrais vous emmener justement en Chine, surtout en passant par Taïwan, puisque c'est là qu'on va forcément trouver les dissidents. C'est un reportage signé Dominique André, on se retrouve juste après.
Le 4 juin 1989, le couple vedette de la CCTV, la télévision officielle chinoise, est habillé en noir. Du Xian et Xue Fei annoncent d'une voix triste que l'armée vient d'intervenir place Tiananmen. Ce sera leur dernier journal. Pourquoi le mouvement pro-démocratique chinois a-t-il échoué? Fang Zhongde était l'un des principaux leaders étudiants. Il analyse les raisons de l'échec du printemps de Pékin. Nous l'avons rencontré à Taïwan.
Pourquoi le 4 juin s'est-il terminé brutalement? Parce qu'on n'a jamais pensé à renverser le pouvoir. Donc on ne pouvait pas réussir. Pourtant, on a eu l'occasion. Mais on s'est fait laver le cerveau. Le Parti communiste continue aujourd'hui à contrôler les jeunes comme ça. Je dis aux jeunes de faire attention, à ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous dans leur combat contre le Parti communiste.
Le choix de la répression en 89 permet au Parti communiste chinois de garder le pouvoir. L'histoire sera bien différente en Europe avec la chute du mur de Berlin 5 mois plus tard qui entraîne l'effondrement de l'Empire soviétique. Exilé aux États-Unis, l'artiste Gao Ertai, incarcéré après Tiananmen, a réfléchi aux différences fondamentales des deux grands événements de 89.
En dehors du cas de la Yougoslavie, les autres pays communistes étaient sous la coupe de l'URSS. Les peuples considéraient leurs dirigeants comme dépendants d'un pouvoir politique étranger. Leur existence, ainsi que celle du mur de Berlin, était garantie par l'armée rouge. Avec la perestroïka, la chute du mur est devenue évidente. Pour la Chine, la Corée du Nord, Cuba et le Vietnam, c'est différent. Les dirigeants politiques durent jusqu'à ce jour en faisant régner la terreur, mais ils craignent pour leur survie.
Dans son discours du 9 juin 89, Deng Xiaoping, l'homme de la réforme d'ouverture économique de la Chine, qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants, félicite l'armée, mais insiste aussi sur la nécessité de continuer à s'ouvrir. Mais justement, 30 ans après, quels sont les espoirs d'ouverture politique? En Chine, il est toujours dangereux d'évoquer Tiananmen. Allumer une simple bougie à la mémoire des victimes est interdit. Depuis la mort de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, Rujia, devenue une figure majeure de la dissidence, n'abandonne pas ses rêves de démocratie.
Le régime de Pékin n'est pas comme celui de la Corée du Nord. La Chine censure l'Internet, mais aujourd'hui, je suis interviewé par vous. Il y a quand même des voix qui sortent du pays. Si on compare avec l'époque de Mao, Xi Jinping n'est pas le pire. Il est sous la pression internationale. La Chine est obligée de s'intégrer dans la communauté internationale, même si le Parti communiste chinois rejette cette idée.
Mais aucun dialogue politique pour les opposants n'est possible avec le régime de Xi Jinping, qui aujourd'hui se montre offensif en défendant son modèle politique à l'extérieur des frontières de la Chine.
Dominique André pour le reportage, merci beaucoup. François Bougon, il y a une phrase qui m'a fait réagir et vous aussi au moment où on l'entend, c'est tout au début. Pourquoi le mouvement du 4 juin s'est-il terminé brutalement? Parce qu'on n'a jamais pensé à renverser le pouvoir. Et ça c'est fascinant quand même, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il voulait sur la place? Est-ce qu'il voulait changer le pouvoir tel qu'il était pour le rendre meilleur, à la chinoise on va dire, ou est-ce qu'il voulait vraiment renverser le régime? Est-ce qu'ils le savaient eux-mêmes?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de dissensions au sein du mouvement étudiant. Tout le monde ne pensait pas la même chose. Il y a eu beaucoup de divisions entre Tsai Ling, la jeune leaduse, enfin leader, et puis d'autres. Il y a eu beaucoup de confusion. Après, je ne sais pas si c'est posé la question de prendre les armes. Ça, je ne pense pas que c'était posé comme ça. Ils se sont toujours présentés comme non violents, pacifiques, guidés par les idées notamment de Gandhi. Je vous disais cette espèce d'avidité de lire des choses de l'étranger, de recevoir des idées de l'étranger. Et en fait, ils ont toujours pensé, je crois, dans leur majorité, que ça allait venir, ils étaient dans leur droit d'une certaine manière. Et donc, ils ont toujours cru que le pouvoir allait les écouter.
Et alors, ce qui est fascinant dans ce que vous racontez, c'est combien nous, on s'est trompés, en fait, dans notre lecture post-mouvement, où on s'est dit, ah ben, ça y est, c'est fait. Mitterrand le premier, d'ailleurs, mais Bill Clinton aussi, et plein d'autres. Ah ben, ça y est, c'est fait. De toute façon, la Chine ne peut pas ne pas s'ouvrir. Après ça, c'est impossible. Et puis, il y a l'ouverture économique. Et puis, de toute façon, il y a Internet et cette image de Clinton qui dit, essayez de stopper Internet, c'est comme essayer d'accrocher de la gélatine au mur. Eh ben oui. En fait, on s'est tous trompé sur notre lecture post-Tiananmen au fond, en fait.
Oui, on s'est tous trompés parce que je pense qu'on est, on a été à la fois assez naïfs et puis prisonniers de nos propres croyances.
De ce qu'on avait envie de voir aussi.
Exactement, et puis la Chine était un immense marché, il y avait la volonté aussi de croire que le libéralisme économique allait entraîner un libéralisme politique, c'est-à-dire que des classes moyennes allaient s'enrichir et que forcément, des classes moyennes qui s'enrichissent, c'est des classes moyennes qui demandent plus de droits et qui réclament de la démocratie. démocratie. Et ça s'est pas passé comme ça, parce que le régime a opéré ce que j'appelle moi un réarmement idéologique. Il a essayé de conquérir la bataille des idées. C'est ça qui est important.
Et c'est ça qu'on a sous-estimé, nous, au fond, c'est cette capacité à se réarmer idéologiquement, ce que représente Xi Jinping aujourd'hui.
Oui, parce qu'on était dans l'illusion de la fin de l'histoire. On était tellement persuadés que notre système à nous, ce qu'on appelait le monde libre au sortir de la guerre froide, avait vaincu, qu'on s'est pas, on a pris Tiananmen comme juste un accident de l'histoire, alors que pour le régime, c'est vraiment le début de quelque chose, de ce régime qu'on voit aujourd'hui, qui est un mélange de nationalisme, de communisme et de tradition chinoise.
François Bougon, une dernière chose qui m'a frappé ce matin, je sais pas si vous avez écouté la revue de presse de Claude Askolovitch, qui cite ce papier dans le New York Times, où des étudiants chinois en Australie viennent voir leur prof qui a fait une espèce de conférence sur Tiananmen en disant mais pourquoi vous voulez revenir sur cette période? Quelle utilité pour notre génération? Et oui. C'est fou d'entendre ça quand même, non?
Il y a une partie des étudiants, notamment des étudiants qui étudient à l'étranger. Alors certains ouvrent les yeux et se posent des questions. Et d'autres, ils voient ce qui s'est passé et ils sont persuadés, parce que c'est le régime le dit aussi, que ça a été une bonne décision, que ça leur a permis de bénéficier de bonnes conditions d'éducation et aujourd'hui d'aller étudier à l'étranger. Ils sont très nationalistes.
Allez, ça s'appelle La Chine sous contrôle, Tiananmen 89-2019, c'est passionnant. Vous nous rappelez d'ailleurs, François Bougon, l'histoire de la photo, on oublie qu'elle a été prise après, deuxième jour, et utilisée donc comme outil de propagande par les Chinois, autant finalement que par les Occidentaux. Merci beaucoup, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Argentine, terrassée une fois de plus par une très grave crise économique. Caroline Vic vous emmènera à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui tirent le diable par la queue réellement sous les radars, et Amélie Perrier qui fume et qui boit du café ce soir. Bravo. Le Monde selon Trump, saison 3. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Votre président est à Londres et ça s'entend.
Oui, avec des propos sur Twitter et à l'oral qu'on va qualifier de bien peu diplomatiques.
Allez, le monde à l'envers, Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
De votre côté, la patronne du SPD éternue, démissionne et c'est toute la coalition qui prend froid.
C'est la théorie des poupées russes appliquée à la politique allemande, effet en chaîne en série et c'est pas bon pour Merkel.
Allez, le tour de la planète commence à peine, restez avec nous, il passe par la Jamaïque avec Jimmy Cliff dans Un jour dans le monde, de Harder They Come. Dans Un jour dans le monde, de Harder They Come, ça date de 69, toujours en super forme comme d'autres d'ailleurs. Et la Jamaïque, tiens, eh ben on y va très vite.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Grâce à Amélie Perrier, sous les radars, Amélie, de la ganja, du rasta, au business du cannabis thérapeutique.
Oui, c'est le débat en ce moment en Jamaïque et aux Antilles, et c'est aussi le combat de cet homme, Machel Emmanuel, professeur et chercheur en biologie à l'Université des Indes Occidentales et Caraïbes à Kingston.
Thank you very much for having me here.
Alors c'est un chercheur avec des longues dreadlocks, hein. Le voici ici lors d'une convention Rastafari, invité pour parler de sa spécialité, le cannabis Landrei, celui qui a poussé naturellement en Jamaïque avant de disparaître à cause des interventions de l'homme. Le Landrei, c'est la ganja suprême, celle fumée par les Rastas dans les années 50, 60, 70, celle fumée par Bob Marley ou encore Peter Tosh.
Ou Jimmy Cliff peut-être.
Peut-être, on lui demandera. Alors c'est une variété moins forte que le cannabis moderne, avec moins de THC, la substance psychoactive. La plante était aussi plus grande, plus repérable, et elle a donc été massivement détruite par les autorités. Et la culture a été abandonnée, remplacée par des plantes hybrides. Le docteur Machel Emmanuel lui tente aujourd'hui de refaire pousser le cannabis originel dans son jardin de l'université de Kingston. Il est allé chercher des graines en Guadeloupe, à Trinidad et en Dominique. Et le docteur Emmanuel, qui avoue en consommer, en vaporisation ou en huiles essentielles, eh bien il y voit une manne financière pour ses Antilles assez pauvres, surtout avec la légalisation progressive dans certains États américains ou au Canada. Il fait partie de ces professionnels qui tentent de convaincre les États caribéens de s'associer pour cultiver l'herbe à Trinidad. Cela rapporterait plus que la banane, assure-t-il. Il rêve même d'une IGP, une indication géographique protégée, un peu comme le champagne en France, dit-il. À la limite pour lui, c'est la nécessité d'un commerce équitable, en adéquation avec l'idéologie rastafarienne, éthique bio et végétarienne donc. D'où l'inquiétude des mêmes cultivateurs de l'expansion d'une production de chanvre industrielle pour le textile ou l'industrie pharmaceutique. Cette nouvelle espèce pourrait en plus menacer de nouveau le cannabis traditionnel de l'île. Un vrai business, on vous dit, d'où cette conclusion du docteur Emmanuel. On n'achète pas le bonheur, mais on peut acheter de l'herbe. Bon, voilà. Pas en France, hein.
Non, du
c'est
tout.
Illégal, hein.
Absolument.
On le redit.
Fumer encore, décidément, bravo. Oui. Amélie, la chicha cette fois, mais au Liban.
Alors c'est un plaisir pour beaucoup d'habitants là-bas, menacés aujourd'hui par le nouveau budget d'austérité. Le narguilé est déjà taxé avec une TVA à 11%. Les consommateurs devront bientôt payer 1000 livres libanaises de plus pour chaque pipe à eau, l'équivalent de 60 centimes d'euros. C'est un coup dur hein, pour les Libanais dont le pouvoir d'achat se porte mal depuis pas mal d'années. Sur les réseaux sociaux, les fumeurs n'ont pas de mots assez durs pour les politiques, accusés de corruption, de protéger leurs privilèges, de voter des taxes qui n'auront pas d'impact sur leur fortune personnelle. La chicha, c'est le moment de détente dans un quotidien difficile pour beaucoup de Libanais. La chicha, c'est devenu très populaire et bien au-delà des frontières du Proche-Orient.
Wesh les gars, c'est qui ça? Vite fall fumeur chicha. Minette qui se la pète, fais bouger ta cricha.
Voilà, y a pas un rappeur qui n'a fait sa chanson sur la chicha. Et même nos footballeurs hexagonaux sont devenus accros.
Moi, à titre personnel, c'est occasionnellement un petit plaisir, on va dire.
Voilà, Bounassar, il est défenseur de l'Olympique de Marseille, donc il avoue, comme les Libanais, qu'il fume la chicha. Mais comme les Libanais, il ferait mieux aussi de s'arrêter, car si le goût sucré peut tromper, la chicha est très nocive pour la santé. Chaque bouffée équivaut à une cigarette, Donc avec une pipe à eau, vous fumez facilement un paquet sans vous en rendre compte. Alors si la chicha fait partie de la douceur de vivre à Beyrouth, elle est certainement responsable aussi du nombre de records de cancers dont les chiffres viennent d'être publiés au pays du Cèdre. Les cancers de la vessie du poumon ont triplé ces dernières années. Et comme là, je vous ai bien donné envie de fumer, Fabienne, calmons cette pulsion avec une tasse de café.
Ah bah au contraire, non mais franchement, je ne vous remercie pas. Le café, pas si nocif que ça pour la santé, donc
alors,
apparemment.
Alors là, c'est une étude étonnante publiée dans le Guardian aujourd'hui. Recherche financée par la Fondation britannique pour le cœur. D'après une enquête menée sur 8000 Britanniques. La conclusion, boire 5 tasses par jour et même jusqu'à 25 tasses de café par jour n'est pas pire pour les artères que de boire moins d'une tasse quotidienne. Et pourtant, les précédentes enquêtes prouvaient que le café augmentait les risques cardiaques ou les risques d'AVC. Là, les scientifiques qui ont fait boire différentes quantités de café à 3 groupes distincts n'ont vu aucune différence. Ils admettent quand même que le lien de causalité n'est pas encore prouvé. Alors prudence, quand même, on connaît ces enquêtes pseudo-scientifiques aux conclusions surprenantes. Une étude montrait il y a quelques années que les études scientifiques n'étaient pas fiables, comme le serpent qui se mord la queue.
Comme dirait, ouais. Enfin, on souhaite une bonne nuit, en tout cas, ceux qui ont essayé avec 25 tasses
25
de café
tasses. Ouais,
aujourd'hui.
Faut les tenir, quand même.
Un bon bouquin, une bonne série, tout ci, tout ça, le reste. Allez, Amélie, à demain quand même.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est donc en Argentine que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, l'Argentine qui subit de nouveau Une dure crise économique, c'est un rapport de l'Université catholique argentine qui dit que 33% des Argentins vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Une famille de 4 doit gagner plus de 560 euros pour ne pas être considérée comme pauvre. C'est l'équivalent de 2 salaires minimum. Le nouveau gouvernement Macri, dans sa 4e année de mandat, est de plus en plus critiqué pour ses mesures économiques qui plongent le pays dans la crise. Bonsoir Caroline Vic.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Caroline, retraitée, jeune diplômée, active, plus ou moins aisée, vous êtes allée à la rencontre d'Argentins au profil très différent, mais tous touchés, et on écoute ce que vous ramenez.
Hola, c'est de leche.
Oui, une inflation qui a atteint 48% en 2018 et qui continue à grimper d'environ 4% par mois depuis le début de l'année. Une projection de 39% est attendue encore pour cette année. Inflation qui se conjugue avec récession. D'où l'impact si fort sur le pouvoir d'achat des Argentins. Maria Laura a 68 ans, professeure en maternelle pendant 40 ans. Elle a pris sa retraite il y a 5 ans. Mais avec un loyer à payer et une retraite de 700 euros, elle continue de travailler et calcule chaque centime. Faire ses courses, par exemple, est devenu un véritable casse-tête. Comme la plupart des Argentins, elle chasse les promotions pour boucler ses fins de mois. Maria Laura. J'ai dû continuer à travailler 4 heures par jour, sinon je n'y arrive pas. Ici, les charges et les loyers sont très chers. Et à mon âge, il faut acheter plus de médicaments et je peux à peine les payer. Ces derniers temps, les prix ont terriblement augmenté. Avant, je pouvais mettre quelques pesos de côté, mais maintenant c'est impossible. Impossible. Je dois faire un gâteau, alors je dois acheter du beurre, du dulce de leche, du fromage blanc. Bon, on va voir le dulce de leche. Eh oui, 93 pesos. C'est incroyable. Il y a 2 mois, il était à 66 pesos. Ici, l'inflation nous dévore.
Alors Caroline, l'une des causes de l'inflation est la forte dévaluation du peso argentin qui s'est envolée depuis l'arrivée de Mauricio Macri au gouvernement.
Oui, en effet, selon les chiffres de fin de l'année dernière, la monnaie nationale a dévalué depuis 2015 de plus de 250%. Aujourd'hui, 1 euro vaut 50 pesos contre 11 pesos en 2015 au début de son mandat. Autre déclencheur de l'inflation, la hausse des tarifs de l'essence, du gaz et de l'électricité. D'abord parce que les prix sont en dollars, puis transposés à pesos, mais aussi parce que le gouvernement ne cesse de diminuer les subventions à l'énergie. Gisela est maman de jumeaux de 9 mois. À 39 ans, elle est directrice d'un site de recherche d'emploi. Son mari a sa propre agence de voyage et tous les deux gagnent bien leur vie, environ 2000 euros par mois. Mais avec les enfants et les factures de plus en plus chères, leur qualité de vie n'est plus qu'elle était. Gisela.
Aujourd'hui, j'ai un bon travail. Mon mari a sa propre entreprise. Mais notre capacité à économiser diminue mois après mois, parce qu'ils augmentent les prix des couches, de la nourriture, ils augmentent les mensualités du prêt hypothécaire. Aujourd'hui, je ne donne plus le sein et le lait en poudre est très cher. En plus, il y a très peu de crèches publiques et il y a des files d'attente de 2 ans. Donc, on n'a pas le choix. On doit payer une crèche privée qui me coûte 20 000 pesos, l'équivalent de 400 euros par mois. Et là, regarde, j'ai une facture d'électricité. En 2017, je payais 97,36 pesos, l'équivalent de 2 euros. Et maintenant, 2254 pesos. La différence est abyssale.
Dans un autre quartier de Buenos Aires, Daniel, 55 ans, est coordinateur dans un centre de tri. Il travaille pour la mairie avec les cartoneros que l'on peut voir partout dans la capitale tirant leurs chariots. Daniel contrôle leur va-et-vient, mais gagne très peu.
Aujourd'hui, je touche un salaire de 23 000 pesos, l'équivalent de 460 euros. Et ma femme, un peu moins, donc on n'arrive pas à gagner 50 000 pesos, l'équivalent de 1 000 euros à deux. On n'arrive pas à boucler les fins de mois. Je dois toujours aller chez ma belle-mère en fin de mois avec un sourire pour qu'elle nous donne un coup de main. Mais aujourd'hui, j'observe dans la rue des situations qui avaient disparu. On revoit dans les rues de Buenos Aires des enfants, les mains dans les poubelles, avec leurs parents. Et il y a de plus en plus de travailleurs précaires, de cartoneros, qui voient dans les déchets un moyen de survivre. Et ça, c'est une régression absolue.
Et c'est une régression absolue.
Et du coup, Caroline, ça c'est peut-être une migration qu'on voit moins, qu'on connaît moins. D'ailleurs, il y a ceux qui survivent et ceux qui prennent la décision radicale de quitter leur pays pour tenter l'aventure, notamment en Europe.
Oui, comme en 2001, de nombreux Argentins, résignés, frustrés, découragés, préfèrent partir. Et l'Europe est une de leurs destinations privilégiées. L'Argentine, on le sait, est un pays d'immigrés espagnols, italiens, allemands, français, venus s'installer pour échapper aux guerres notamment. Beaucoup de jeunes ont donc aujourd'hui une double nationalité, héritée de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et donc des papiers pour pouvoir travailler en Europe. Parmi ces jeunes désenchantés, Lucas, 25 ans, technicien électronique.
Ici, on ne peut même pas prévoir des vacances, parce que tu pars avec un dollar à une certaine valeur, et quand tu rentres, il en a une autre. Si tu ne peux pas projeter des vacances, alors encore moins acheter une maison ou une voiture. Donc, travailler autant d'heures tous les jours pour survivre, ça n'a pas de sens. J'ai des amis que je rejoins en Espagne, aucun n'a mis plus de 2 ou 3 semaines pour décrocher un travail dans son secteur d'activité. Et ils n'ont pas le stress, comme ici, de chercher un travail pendant des mois, de réclamer une augmentation tous les 3 mois pour boucler les fins de mois. Tout ce qu'on vit ici, c'est de la folie.
L'Argentine, un pays plein de contradictions. Sur les 40 millions d'habitants, d'abord, 1 sur 3 ne mange pas à sa faim, alors que le pays produit de la nourriture pour 400 millions de personnes. De plus, malgré l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, les prix du gaz et de l'essence ne cessent d'augmenter pour le consommateur. Enfin, les jeunes diplômés formés dans la meilleure université publique d'Amérique latine doivent quitter leur pays pour espérer travailler. Et malgré les leçons du passé, le FMI fait son retour, le peso s'écroule, l'inflation fait rage et une fois encore, les Argentins payent les pots cassés.
Caroline Vica en Argentine pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à très vite. Ah, voilà mon préféré de la playlist d'Inter, Aldous Harding, The Barrel. I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside an old. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Ah, c'est bête, hein. On peut pas l'écouter jusqu'au bout. C'est dommage, mais on le repassera une autre fois. Allez, Aldous Harding, The Barrel sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Voilà, Grégory Philippe, c'est pas du Bruce Springsteen, mais c'est bien quand même. Le Monde selon Trump, saison 3, Greg, votre président est donc à Londres, on l'a entendu dans le 18h, on le réentendra tout à l'heure à 19h. Et voici, tiens, la bande-annonce diffusée sur la chaîne britannique Sky News de la visite de votre président américain. Alors c'est drôle à regarder, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux, Grégory, la silhouette de Baby Trump, l'énorme ballon gonflable en forme de Trump qui survole Londres, Buckingham Palace, avec une ombre subitement sur tout Londres, voilà pour l'ambiance. En attendant donc à peine fouler le sol britannique, Trump fait du Trump.
Oui, en vérité, c'était même juste avant de décoller pour la Grande-Bretagne, avant d'embarquer à bord d'Air Force One, Donald Trump dit quelques mots et s'attaque de manière, vous allez l'entendre, assez frontale au maire de Londres, Sadiq Khan.
No, I don't think much of him. I think that he's the twin of de Blasio, except shorter.
Traduction, non, je l'aime pas trop. Pour moi, c'est le jumeau de Bill de Blasio, le maire de New York que Trump déteste. En plus petit, dit-il, et dans un tweet rédigé à bord de l'avion présidentiel, cette fois, Donald Trump en rajoute une couche. Sadiq Khan est un loser qui, écrit-il, fait la moitié de la taille du maire de New York. Alors Fabienne, d'abord, on a vérifié. Khan fait 1m68 et de Blasio 1m95, donc okay. Il n'est pas moitié plus petit que le maire de New York. Et puis pourquoi cette tire présidentielle contre le maire de Londres? Eh bien parce que la veille, dans le Guardian, Sadiq Khan avait publié une tribune pour dire qu'il désapprouvait le fait qu'on déroule le tapis rouge à un dirigeant d'extrême droite tel que Trump. Et puis aussi, le président américain est proche de, on le sait, de Nigel Farage, le leader du parti du Brexit, et de Boris Johnson, probable futur Premier ministre. Donc en attaquant Khan, Donald Trump prend clairement position pour les europhobes britanniques.
Alors, attaque contre le maire de Londres, on a bien compris. Et puis, attaque aussi contre Meghan Markle, la nouvelle duchesse de Sussex.
Oui, alors ça c'était un peu plus tôt. Interview accordée samedi au Sun. Et voici ce que Donald Trump répond quand le journaliste lui rappelle que la princesse a dit quelques années plus tôt qu'elle déménagerait au Canada si Trump était élu.
She said she'd move to Canada if you got elected. Turned out she moved to Britain.
So, what can I say? No, I didn't know that she was nasty.
Traduction, que puis-je dire? Bah, je savais pas que c'était une méchante. Depuis, Donald Trump a nié avoir tenu ses propos. Fake news selon lui, sauf qu'on a l'enregistrement, vous venez d'entendre. Évidemment, ça tend un petit peu les choses avant d'être reçu à Buckingham Palace, vous l'imaginez.
Donc, et puis décidément, Trump qui a du mal voyager, très énervé ce lundi, qui s'en prend depuis Londres donc au groupe de télécommunications américain AT&T.
Et cette fois, c'est dans un tweet. Donald Trump vient de se poser à Londres et là, il constate la seule manière de s'informer à l'étranger, c'est CNN. Fake news. J'ai éteint la télé. Bon, ça, c'est assez habituel. Mm-hmm. Sauf que là, en plus, il appelle les Américains à boycotter AT&T, le groupe propriétaire de CNN. Il faut quand même rappeler que ce groupe de télécommunications emploie un peu plus de 270 000 personnes aux États-Unis. C'est quand même assez baroque, pour pas dire autre chose, que le président américain appelle à boycotter cette entreprise depuis l'étranger.
Allez, pour terminer, Greg Yonin qui accompagne le président pour ce voyage officiel. C'est le gendre Jared Kushner, le mari donc d'Ivanka Trump, et qui fait parler de lui aujourd'hui à cause d'une interview qui était assez surréaliste.
Alors là, entretien accordé au site internet Axios. C'est intéressant parce que on l'entend rarement, Jared Kushner, qui a fonction de conseiller spécial du président à la Maison Blanche. Et puis il y a ce moment, effectivement, assez surprenant, surréaliste, dans l'entretien, où Kushner semble complètement perdre pied quand le journaliste lui demande si son beau-père de président est raciste.
Non, absolument pas. Vous ne pouvez pas ne pas être raciste pendant 69 ans, puis le devenir dès que vous vous présentez à la Maison Blanche.
Est-ce que dire que Obama n'était pas un vrai Américain, c'était raciste?
Écoutez, je n'étais pas impliqué là-dedans.
Je sais que vous n'étiez pas, mais est-ce que c'était raciste?
Comme je viens de vous le dire, je n'étais pas impliqué là-dedans.
Voilà. Et le journaliste Jonathan Swan relance trois fois Kushner qui paraît sonner et qui n'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Kushner donc qui accompagne Donald Trump lors de cette visite au Royaume-Uni.
Merci beaucoup Grégory Phillips avec nous depuis Washington. On y retournera au Royaume-Uni retrouver Trump d'ailleurs grâce à Antoine Gignot et ce sera tout à l'heure dans le 19h de Sébastien Power.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four, Jean-Marc, la chef du parti démocrate allemand, Andrea Nahles, a rendu son tablier hier. Alors, vu d'ici, ça paraît un peu anecdotique au fond, mais en fait, ça pourrait déclencher toute une série d'effets en chaîne en Allemagne et même en Europe. Et c'est votre monde à l'envers.
On va commencer avec des gros mots. Je résiste pas au plaisir de vous montrer la une du journal allemand Tageszeitung aujourd'hui. Gros titre, Scheißjob zu vergeben, ça veut dire job de merde à pourvoir. Voilà comment l'Allemagne regarde désormais le poste de patron du Parti Social-Démocrate, ce grand parti qui, à l'image du PS en France, a longtemps gouverné le pays. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'Andrea Nahles et vous vous demandez de quoi je vous cause. C'est révélateur. Le SPD allemand compte en fait pour des prunes, seulement 15% aux européennes, la perte de la ville emblématique de Brême, dirigée par le SPD depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc au bout d'un an de direction, Andrea Nahles, 48 ans, en a déjà ras-le-bol. Elle envisage même d'arrêter carrément la politique. La direction du SPD s'est réunie en urgence cet après-midi. Un trio de dirigeants intérimaires a été nommé. Le parti trouvera bien un successeur à l'automne. On trouve toujours des ambitieux. Mais la vérité, c'est que les sociaux-démocrates allemands, comme la plupart de leurs homologues en Europe, n'ont plus d'idées neuves, plus de programmes clairement identifiés à force d'osciller entre le social et le libéral. Et le jet de l'éponge d'Andrea Nahles, c'est donc d'abord ça, l'avis d'obsèque de la social-démocratie.
Et en quoi ça peut avoir des effets en chaîne?
Alors c'est comme les matrioshkas, les poupées russes, il y a un sujet dans le sujet si vous voulez. Si le centre-gauche du SPD se casse la figure, c'est l'édifice d'Angela Merkel et de la CDU de centre-droit qui va s'écrouler avec. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la chancelière repose sur la GroKo, c'est-à-dire la grande coalition centre-gauche, centre-droit. Après les dernières élections, on le sait, il a fallu des mois à Merkel pour préserver cette construction sans laquelle elle n'a plus de majorité à elle seule. Et qui l'a aidé dans cette entreprise? Je vous le donne en mille, Andrea Nahles. Les deux femmes s'entendent bien. Andrea Nahles a été pendant 4 ans la ministre du Travail. Et avec son départ, il est maintenant probable que le SPD claque la porte de la GroKo au plus tard à l'automne. Les sociaux-démocrates vont sans doute vouloir se repositionner plus à gauche. Le contrat de gouvernement avec la CDU de centre-droit ne pourra donc plus tenir sur l'immigration, le climat, les retraites, etc. C'est pour ça que dès le jet de l'éponge d'Andrea Nahles, hier après-midi, Angela Merkel s'est exprimée en urgence, en plein milieu d'un dimanche, pour essayer de rassurer. Ça ne marchera pas, parce que la CDU ne va pas bien non plus, 28% seulement aux européennes, ce qui est très bas pour le centre-droit en Allemagne, sans compter la menace d'être battue par l'extrême droite, cette fois en septembre-octobre, dans 3 régions de l'Est, la Saxe, le Brandebourg, le Thuringe. On se résume sur les conséquences de la démission de Nahles. Angela Merkel est plus près que jamais de la sortie. C'est d'ailleurs pour ça que l'avoir se replier sur un poste européen n'est pas impossible. La CDU allemande est affaiblie par ricochet, ce qui limite son influence à Bruxelles. Et puis l'hypothèse surtout d'élections anticipées en Allemagne a grimpé d'un cran en quelques heures. Je vous l'ai dit, il y a de vrais effets dominos.
Donc, on va continuer dans la politique fiction un petit peu quand même, Jean-Marc. Si nouvelles élections il y avait en Allemagne, qui gagne?
Bon, une victoire de la CDU reste l'hypothèse la plus logique, mais suite des effets dominos, le parti de centre-droit allemand commence à être pris en sandwich. C'est un peu dans une moindre mesure comme la situation des Républicains en France entre l'extrême droite de Marine Le Pen et le centre d'Emmanuel Macron. Face à la poussée prévisible de l'extrême droite à l'automne prochain, la CDU sera tentée de droitiser son discours. Mais si elle va trop loin, elle pourrait perdre les électeurs centristes qui, en Allemagne, pourraient se tourner vers qui? Vers les écologistes. Pour la première fois, un sondage avant-hier a donné les Verts en tête des intentions de vote au niveau national, 27% devant la CDU. 26%. En Allemagne, chez les moins de 45 ans, les écologistes sont désormais leaders, perçus comme les plus novateurs. Et plus largement, de nombreux Allemands considèrent que les Verts ont désormais toutes les capacités pour gouverner. Ils sont déjà présents dans les instances de gouvernement de la moitié des régions. Pour la première fois, l'hypothèse de voir un jour un écologiste à la chancellerie allemande, à la tête du plus grand pays d'Europe, n'est plus totalement fantaisiste, et le seul fait d'envisager une telle éventualité, c'est un événement politique majeur.
Jean Marfour, Le Monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde, merci.